9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Et si la colère des Gilets jaunes était d'abord une crise du logement, avec des centres-villes toujours plus chers qui repoussent les classes moyennes toujours plus loin, l'immobilier est un moteur à populisme, nous dit l'économiste Robin Rivaton, qui propose des solutions radicales pour casser la rente immobilière, livre détonnant et stimulant. Robin Rivaton avec nous dans une minute. Dans l'actualité de la semaine, deux livres politiques importants. D'abord, Le Grand Manipulateur, une enquête très documentée sur les réseaux qui ont aidé Emmanuel Macron à accéder au pouvoir, vieux réseau, vieille recette. Le journaliste Marc Endevelde sera avec nous. Juste après, c'est la haine à droite qu'on va explorer avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Ils ont recueilli les confidences d'un repenti des coups tordus Jérôme Lavrieux. Et ça décoiffe enfin le Venezuela et le coup de colère d'une chercheuse d'origine vénézuélienne, Paola Vasquez Lezama, contre un régime qui a ruiné un pays assis sur les plus grandes réserves du pétrole du monde. Pays désormais hors de service, c'est le titre du livre qu'elle vient de faire paraître.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Robert Rivaton.
Bonjour.
Mais alors, je vous croyais libéral, je découvre un dangereux révolutionnaire qui veut s'attaquer à la propriété privée. Horreur, parce que dans ce livre La ville pour tous, aux éditions de l'Observatoire, vous expliquez que la course folle au prix de l'immobilier n'a aucune raison de s'arrêter dans les métropoles et qu'on n'y arrivera pas sans confisquer et contrôler. Oui, j'ai bien dit confisquer. Alors d'abord le constat, pourquoi dites-vous que le logement est au cœur de la crise et du malaise actuel en France ?
Eh bien, tout d'abord que la métropolisation est un phénomène inéluctable. Cette métropolisation, c'est la concentration des activités, des emplois, des opportunités de progression sociale dans quelques métropoles, en France, mais dans le reste du monde également. Et cette concentration, elle va continuer. On n'arrive pas à déconcentrer. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça veut dire qu'il y a toujours plus de gens qui se situent sur des endroits toujours plus restreints, sur des territoires toujours plus petits. Et donc, face à ça, soit on construit plus de logements, soit les prix du logement continuent d'augmenter, ce qu'on voit après année, ouais, avec un fatalisme assez surprenant, c'est-à-dire que tous les 6 mois, on nous annonce que le mètre carré à Paris a franchi les 9 000, 10 000, peut-être ouais, demain 11 000, 12 000, sans que les gens trouvent ça normal.
Oui, chacun guette la stabilisation, le reflux du marché. Vous travaillez dans l'immobilier, Robert Rivaton, vous dites non, il n'y a pas de bulle, ça ne va pas dégonfler parce qu'il y a une distorsion toujours plus forte de l'offre et de la demande.
Exactement, cette distorsion, elle provient du fait que ces métropoles sont l'endroit où on fait des enfants. L'excédent naturel, donc les naissances moins les décès, se concentre quasiment en France aux 2/3 dans l'Île-de-France. Donc c'est bien l'endroit où il y a une demande qui est sans cesse croissante. C'est l'endroit où les emplois, les entreprises se concentrent. Et face à ça, on ne construit pas assez de logements. Donc la demande est infinie et les prix peuvent continuer d'augmenter jusqu'à plus soif.
Le foncier urbain est devenu la ressource la plus rare au monde. Parce que c'est pas seulement Paris ou quelques grandes villes en France, hein, c'est partout le même phénomène.
C'est valable dans toutes les grandes villes. À New York, le mois dernier, alors on va dire que c'est New York, mais il y a un appartement qui s'est vendu à 100 000 euros du mètre carré. Ouais. Donc il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt.
Face à Central Park.
Face à Central Park, alors c'est un 4 sur 4 étages, très bien, mais il y aura toujours quelqu'un prêt à acheter plus cher. Ouais. Il y a aussi des mouvements internationaux, il y a des villes qui aujourd'hui voient des acheteurs étrangers arriver, qui font monter les prix également. Et donc on a des villes, à la fin, ces métropoles, elles deviennent des châteaux forts. Des châteaux forts, pourquoi ? Parce qu'elles excluent une partie des gens et elles renvoient les classes moyennes, les familles de plus en plus loin, avec des gens qui font 50, 100, 150 km dans la journée pour pouvoir venir travailler à cet endroit-là, parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a les entreprises, qu'il y a les emplois.
Des châteaux forts qu'on regarde de loin avec envie, écrivez-vous. Face à cela, Robin Rivaton, le libéral que vous êtes, fait le constat que le marché ne suffira pas, qu'il faut de la contrainte, de la fiscalité, voire de la spoliation. C'est le sous-titre de votre livre « Repenser la propriété privée ». Alors vous n'en êtes pas à dire comme Proudhon « la propriété c'est le vol », mais vous dites dans beaucoup d'endroits « la propriété c'est la rente immobilière ».
Et oui, dans beaucoup de ces endroits, la propriété est devenue de la rente. De la rente, pourquoi ? C'est qu'il y a des gens qui ont constitué du patrimoine dans les années 60, 70, 80, où en fait la métropolisation n'existait pas. C'était même l'inverse. On fuyait les centres-villes parce que les centres-villes étaient dangereux, parce que c'était plus là où il y avait l'attractivité économique. Et donc aujourd'hui, il y a des patrimoines importants qui se sont matérialisés, qui sont de la rente. Et donc l'idée que je propose, et en fait la politique du logement, ça devrait être ce qu'est la politique, parce que la politique, c'est là où on l'attend en fait. C'est une politique qui est toujours considérée comme secondaire, accessoire, et ça devrait être vraiment la mission du service public, parce que la façon d'organiser l'espace, d'organiser le territoire, c'est vraiment ce que devrait être la mission des hommes politiques aujourd'hui. Et donc la proposition que je fais, effectivement, est relativement interventionniste. En tout cas, elle suppose qu'il y a un marché. Le marché, les promoteurs construisent, et c'est très bien. Mais aujourd'hui, il faut avoir deux axes en tête. Construire plus. Il faut qu'on accepte de densifier nos métropoles. Si on veut réduire le coût du foncier, il faut l'accepter. Donc ça, c'est un premier point.
Densifier les métropoles, mais sans respecter les règles en vigueur. Par exemple, à Paris, on ne peut pas construire n'importe quoi, n'importe quel niveau de logement et de hauteur d'immeuble, surtout.
Bien sûr, mais par exemple, hors Paris, sur la première couronne de l'Île-de-France, on a des plans locaux d'urbanisme qui nous permettent de construire à 8 étages, par exemple, et systématiquement construire à 5-6 étages. Et à chaque fois qu'on enlève un étage, eh ben, ce sont des familles qu'on envoie 50-100 km plus loin. Donc il faut aussi accepter à un moment de se dire que ce voisin qu'on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas avoir d'ombre portée sur son balcon, eh ben, c'est quelqu'un qu'on envoie à 50 ou 100 km. Donc avoir ce premier point et avoir une position forte là-dessus. Et le deuxième, confisquer. Alors j'ai appelé ça confisquer, évidemment, c'est un titre un peu provocateur. Mais l'idée, c'est de se dire... ces patrimoines qui sont importants, qui ont été constitués à un moment où la métropolisation n'était pas aussi forte, il faut réussir à les faire circuler plus facilement. Et donc l'imposition que je propose, c'est de rassembler tous les impôts qui existent sur l'immobilier. Il y en a plein, l'immobilier est très taxé. Le but, c'est pas d'augmenter cette taxation, c'est de mieux la répartir. Mieux la répartir en faisant une taxation sur la valeur nette des biens, donc la valeur du bien moins la dette. Comme ça, les nouveaux ménages, ceux qui viennent d'acquérir des logements, ceux qui viennent de payer très très cher ces logements, eh ben, ils auront une taxe moins importante que ceux qui ont payé leur logement il y a très longtemps.
Et alors l'idée très originale, c'est cette taxe serait basée sur la valeur du bien, mais une valeur estimée, déclarée par les propriétaires, ce qui les incite à minorer cette valeur, et ça ferait baisser les prix ?
Alors, pour limiter justement la valeur, c'est une valeur déclarative, mais comme toute valeur déclarative, le risque, c'est que les gens, effectivement, la minorent. Et donc, pour éviter qu'ils la minorent trop, l'idée, c'est que cette valeur déclarative, c'est le droit de préemption que vous donnez à la collectivité publique pour acquérir votre logement. Donc, si vous voulez fixer un prix très très bas, libre à vous de prendre ce risque-là, mais vous avez le risque derrière la collectivité publique, comme elle le fait déjà aujourd'hui, préempte votre appartement et donc vous disent la valeur que vous avez définie, je l'achète à ce prix-là. Donc c'est un système qui aura plutôt tendance à faire dégonfler la valeur des biens, effectivement. C'est pas une recette magique, mais ça doit permettre de faire reposer plus de taxation sur les métropoles, parce qu'aujourd'hui la fiscalité immobilière, elle repose sur qui ? Sur les villes moyennes, dans des endroits où les prix de l'immobilier sont en train de s'affaisser, de tomber, et avec des gens qui supportent parfois des taxes foncières de 1%, 2% de la valeur du bien chaque année qu'ils doivent repayer dans des maisons ou dans des territoires qui malheureusement voient leur population baissée et donc souffre de cette baisse des prix de l'immobilier.
Robin Rivaton, il n'y a aucun exemple au monde où on ait réussi à enrayer cette spirale folle. L'Allemagne était réputée comme étant un pays sage en matière de logement et de prix de l'immobilier. C'est en train de changer d'ailleurs. Hein.
Totalement. En fait, on a présenté longtemps l'Allemagne comme un modèle de la décentralisation. C'est juste que de 2000 à 2010, l'Allemagne a perdu 200 000 habitants par an. Donc quand vous perdez 200 000 habitants par an, vous revoyez 100 000 logements sur le marché. Donc effectivement, ça aide. Depuis 2010, les prix ont augmenté de 60%. À Berlin, il y a une des crises extrêmement fortes du logement. Il y a des manifestations en continu. Donc c'est un phénomène qui touche toutes les villes, mais il n'y a pas de fatalité. Je prends un exemple, Tokyo, la plus grande ville du monde, 37 millions d'habitants, la deuxième ville la plus riche au monde. Tokyo ne cesse de construire des logements, a pris une politique extrêmement forte pour construire et a réussi à créer, à côté d'un habitat parfois très haut de gamme, un habitat qui permet aux enseignants, aux policiers, aux infirmières de se loger dans le cœur de la ville.
Ce qui n'arrive plus à Paris quasiment. Merci beaucoup. La ville
Merci
pour tous, repenser la propriété privée aux éditions de l'Observatoire. Merci encore. Merci. Robin Rivaton.
Europe 1.
Dans un instant, les réseaux Macron. Comment un trentenaire sans mandat politique, sans parti et sans argent parvient à gagner l'élection présidentielle ? Quel est le vieux monde qui lui a fait la courte échelle ? Le livre s'appelle Le Grand Manipulateur. Son auteur Marc Endeveld avec nous dans un instant.
Europe 1.
9h-10h. C'est arrivé cette semaine.
Europe 1. Jusqu'à 10h sur Europe 1, vous écoutez C'est arrivé cette semaine et c'est avec vous, Patrick Cohen.
Cette semaine, on a appris grâce à une enquête de nos confrères de Radio France qui ont eu accès aux données de la Commission nationale des comptes de campagne que les grands donateurs, environ 800 personnes, ont financé la moitié de la levée de fonds opérée par Emmanuel Macron avant la présidentielle. Une collecte exceptionnelle, 16 millions d'euros recueillis entre mars 2016, création du mouvement En Marche, et décembre 2017. Jamais un candidat n'avait rassemblé autant d'argent auprès de particuliers en partant de rien. Et c'est une partie de l'histoire que vous racontez. Bonjour Marc Endeveld.
Bonjour.
Le Grand Manipulateur, c'est le deuxième livre que vous lui consacrez parce que vous avez été le premier à publier sur lui L'ambigu Monsieur Macron. C'était en novembre 2015. Vous écriviez, alors que personne n'y croyait, cet homme-là se prépare pour la présidentielle. Ce que vous racontez aujourd'hui, c'est la façon dont il a méthodiquement réuni argent et soutien pour parvenir à ses fins. D'abord un mot sur ses grands donateurs et ses 16 millions dont 18% viennent de 3 arrondissements parisiens et 15% de l'étranger, à commencer par le Royaume-Uni.
Alors, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que ça va à l'encontre d'une partie de la communication de l'équipe Macron pendant la campagne, qui expliquait que les dons avaient été larges et populaires et que l'ensemble des Français avaient donné à la campagne d'Emmanuel Macron.
Il y a eu beaucoup de donateurs quand même,
700 000. Il y a eu beaucoup de donateurs, mais en réalité, on s'aperçoit que la majorité des dons vient donc de 800 à 900 grands donateurs.
La moitié.
Le JDD, le journal du dimanche, il y a quelques mois, l'avait un peu souligné déjà. Là, c'est plus précis. Et il y a également un point très intéressant dans cette enquête, c'est qu'ils expliquent que l'équipe Macron a maximisé le cadre légal de dons, c'est-à-dire qu'ils ont mélangé les dons au parti En Marche, avec un plafond de 7 500 € par individu, et le don à 4 600 € à la campagne proprement dite du candidat.
Ça, c'est très intéressant. Et parfois, dans un même foyer, donc il y a eu 3 versements,
tout à fait.
Les deux conjoints.
Et donc, ça pouvait monter à 40 000 € de dons par foyer. Moi, j'apporte un autre éclairage complémentaire au financement de la campagne, parce que je me suis penché également avec des sources, mais également sur les documents en accès sur ce qu'on appelait les Macron Leaks. C'est qu'en réalité, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas eu de difficultés financières sur la campagne. C'est-à-dire qu'en décembre 2016, donc 4 mois avant le premier tour, malgré les dîners de collecte de fonds qui avaient été médiatisés, l'équipe Macron n'avait réussi à récupérer que 5 millions d'euros. Ce n'est pas suffisant pour les standings d'une campagne présidentielle comme celle d'Emmanuel Macron. Et l'autre difficulté qu'ils ont eue, c'est que dans les mois qui ont suivi, ils espéraient pouvoir obtenir rapidement des prêts bancaires. Et finalement, ils ne les ont obtenus que dans la dernière ligne droite.
Formidable paradoxe. Voilà. Si Emmanuel Macron se démène ainsi pour récolter de l'argent, c'est qu'il n'en trouve pas auprès des banques. C'est-à-dire que le candidat des riches et des banquiers n'est pas du tout aidé par les banquiers.
Il a fini par être aidé par les banquiers,
oui,
mais comme il ne disposait
mais
assez tard, c'est-à-dire quelques jours avant le premier tour, et alors avec des banques quand même relativement proches de lui, parce que c'était la Banque Populaire Caisse d'Épargne, dirigée par François Pérol, ancien secrétaire général de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, ancien de la Banque Rothschild, et également le Crédit Mutuel, qui est client de la Banque Rothschild. Mais c'est vrai que durant ces 4 mois-là de campagne, entre janvier et avril, il y a eu une certaine tension financière. L'équipe financière de la campagne était assez paniquée. Et il a fallu, pour l'équipe Macron, développer un argumentaire auprès des banques pour récupérer ses prêts. Ça apporte une complexité au financement de la campagne. Effectivement, les grands donateurs, mais même les grands patrons, par exemple Xavier Niel qui m'en parle très librement, ne pouvaient donner que dans le cadre légal. Donc Xavier Niel a fait, par exemple, il me le reconnaît, j'avais l'information, a fait un don à François Fillon, par exemple, un don personnel à François Fillon. Bon, là aussi, on est plus dans la complexité. Mais effectivement, dans la campagne, ça a été tendu au niveau financier entre janvier et avril.
Et vous racontez les voyages répétés d'Emmanuel Macron lui-même et d'une partie de son équipe en Afrique, au Proche-Orient, en Europe, etc.
C'est effectivement une autre part de l'enquête. C'est que je me suis intéressé au réseau de la France-Afrique, africain, et les réseaux aussi d'Emmanuel Macron en Algérie, parce qu'il a été donc en Algérie, en pleine campagne, il avait fait ses grandes déclarations contre la colonisation. Et effectivement, il a rencontré à ce moment-là énormément de responsables algériens, franco-algériens, du monde des affaires, des grands patrons, notamment un grand patron qui s'appelle Issa Drebbrab, une des grandes fortunes.
Qui passe pour être l'homme le plus riche d'Algérie et qui vient d'être,
arrêté,
incarcéré dans le cadre d'une enquête anti-corruption. C'est très intriguant.
Oui, c'est très intriguant. Effectivement, Issa Drebbrab, comme Ali Haddad, ancien grand patron, représentant des grands patrons algériens, ont été tous les deux arrêtés depuis plus d'un mois. C'est aussi, il faut replacer ça dans le contexte des événements algériens actuellement, où il y a des luttes de clans, évidemment, au plus haut niveau du pouvoir. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron a été jusqu'à rencontrer ses grands responsables économiques algériens durant sa campagne.
Barkendevelde, le grand manipulateur, on vous retrouve dans un instant. Vous allez continuer à nous raconter ces réseaux du vieux monde activés par Emmanuel Macron.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, la suite. Vous êtes avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Et avec le journaliste Marc Endeveld, auteur chez Stock du grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron. Ce livre est une incroyable collection de personnalités en tout genre. Je ne sais pas si vous avez compté le nombre de noms cités.
Il y a beaucoup de noms, ils sont tous importants en plus.
Bon, il y a même le patron d'Europe 1, c'est vous dire si c'est complet. En lien avec Macron, il y a des patrons du privé, du public, des milieux d'affaires en France, à l'étranger, des publicitaires, des francs-maçons, des vieux barons de la politique, de toute tendance, ex-fabusiens, ex-troscaniens, sarkozistes. Il y a même un fidèle de François Mitterrand, Michel Charras.
Michel Charras.
C'est lui qui a soufflé au président le nom d'une ministre importante ?
Oui, c'est ce qu'on m'a raconté, effectivement. Michel Charras fait partie des visiteurs du soir d'Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat. Ces derniers mois, c'est un peu plus compliqué pour lui pour des raisons personnelles. Mais effectivement, Michel Charras a donné beaucoup de conseils à Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir. Parce que un des points de départ de mon enquête...
Et alors la ministre, pardon, c'est... La ministre
Nicole Belloubet,
voilà, avec qui Michel Charras avait siégé au Conseil constitutionnel.
Voilà, c'est ça, j'ai pas entendu que vous l'aviez pas cité.
Non, j'ai pas cité, j'attendais que vous le fassiez. Voilà. Oui, donc c'est quoi le point commun de tous ces gens-là?
Alors, le point de départ de l'enquête, c'était de comprendre comment un novice en politique, qui n'avait pas d'expérience politique, avait pu céder effectivement de nombreux réseaux pendant la campagne, mais surtout avait pu prendre le contrôle de l'État une fois élu, notamment dans tout un tas de secteurs extrêmement sensibles, que ça soit dans le milieu de la défense, de la sécurité, place Beauvau, la question de l'armement, la diplomatie. C'est tout un tas de réseaux de la République, peu connus du grand public, mais d'habitude, les précédents candidats au président-président avaient sédimenté toutes ces relations d'année en année. Et l'autre particularité d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'avait pas de parti politique en tant que tel, en réalité. Et donc, il a utilisé ses réseaux aussi pour contourner les partis politiques traditionnels, PS comme LR, les générations de ces partis politiques quinquacadra, qui voulaient avoir le pouvoir. Ouais. Et effectivement, ce que je démontre à travers le livre, il s'est appuyé énormément sur d'anciennes générations politiques.
Sur les seniors.
Qui ont flingué les quinquas, seniors qui étaient eux-mêmes, qui s'étaient échappés de ces partis politiques.
Et qui n'avaient plus d'espoir d'accéder eux-mêmes directement au pouvoir. C'est ça, le truc. Ils flinguent. Et parfois, ils se font flinguer. C'est l'élément aussi que vous apportez au portrait du président, c'est qu'il peut être un politique à l'ancienne, un tueur sans état d'âme et quelqu'un qui jette ce dont il n'a plus besoin.
Oui, alors il y a plusieurs épisodes que je raconte, que je rapporte, assez impressionnants dans la dureté et dans sa pratique du pouvoir. Ça donne un éclairage un peu plus complexe au personnage par rapport, par ailleurs, à la communication bienveillante durant sa campagne. Mais la phrase qui m'est revenue le plus souvent et par de nombreux interlocuteurs, c'est « il séduit, il utilise, il jette ». Donc il fait ça par stratégie, par ambition. Sur le long terme et sur la pratique du pouvoir, ce n'est pas forcément la meilleure méthode, parce qu'en réalité, il a déçu beaucoup de gens, y compris au sein de l'establishment économique et politique. Et ça explique aussi une partie de sa solitude aujourd'hui au pouvoir. L'autre aspect de l'enquête, c'est que dans sa conquête du pouvoir, comme il n'avait pas de parti politique constitué, dans sa garde rapprochée, il y a effectivement, alors on l'a vu avec l'affaire Benalla, il y a énormément, on va dire, une équipe bis de campagne, en tout cas des hommes de l'ombre. Et c'est la grande différence avec le passé, c'est parce qu'il y a François-Olivier Gisbert, par exemple, hier m'expliquait que les hommes de l'ombre, il y en a toujours eu sous la Ve République.
Oui,
mais la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, l'Élysée, c'est un peu une voiture sans amortisseur. Parce qu'entre le président et certains de ses réseaux, il n'y a généralement pas d'intermédiaire réel, en fait. Et donc, dès qu'il y a une affaire un peu sensible, ça remonte directement au président, parce qu'il n'y a pas le contre-pouvoir d'un parti politique avec lui, en fait. Et il est tout seul face parfois à des relations un peu problématiques, ou en tout cas interrogantes.
Dureté du président, j'y reviens. Une phrase terrible, par exemple, à l'égard de Manuel Valls, qui frappe à la porte et... essaye d'afficher son soutien au nouveau président. Vous rapportez cette phrase d'Emmanuel Macron qui est...
Alors, la phrase, je ne l'ai plus en tête, mais en fait...
Maintenant, on va passer au bal réel.
Voilà, il ne comprend pas, il ne semble pas comprendre. Maintenant, on va passer effectivement au bal réel. Il dit ça à un de ses très proches conseillers informels pendant la campagne qui me l'a rapporté. Et la dureté d'Emmanuel Macron, il faut la replacer dans le contexte du combat politique entre Manuel Valls et Emmanuel Macron dans les mois qui ont précédé la campagne présidentielle, que je documentais dans mon premier livre. Mais effectivement, il y a d'autres ressorts derrière. Il y a également tous les réseaux de Manuel Valls qui ont lutté très durement contre Emmanuel Macron, parfois en utilisant, on va dire, des propos peu amènes sur le futur président de la République. Et ça, Emmanuel Macron n'a pas oublié cet élément-là. Donc, il est dans une... il y a un rapport de haine entre Valls et Emmanuel Macron, comme aujourd'hui entre François Hollande et Emmanuel Macron, parce que François Hollande n'a pas dit son dernier mot et aimerait mettre des bâtons dans les roues de son ancien collaborateur.
Alors, on ne fera pas le tour de votre livre, Mark Endevel, parce que c'est, je le répète, il est bourré d'informations et incroyablement documenté. La question qu'on se pose en refermant votre livre, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron se sent redevable à ceux qui l'ont aidé? Est-ce que c'est un président sous influence?
Alors, la question est compliquée. Je l'aborde, je l'aborde dans tous les sens. On va dire que la journaliste Raphaël Baquet, qui a lu le livre, me disait finalement, ce qu'il résume, c'est son ingratitude. Bon, moi, ce que je dis, c'est qu'il est...
Ce qui peut être une qualité, en l'occurrence, face à des réseaux d'intérêt ou à des...
Disons que moi, ce que je dis, c'est qu'il a utilisé tout le monde, donc il a quand même utilisé tout le monde à un moment donné. Et il est très dans l'époque, c'est-à-dire il est très utilitariste. Il n'hésite pas, justement, comme on l'a dit, à jeter. Par exemple, une des dernières, un des éléments que je voudrais souligner, ça fera la transition avec mes illustres confrères, c'est que un des éléments extrêmement importants, y compris pour comprendre la politique aujourd'hui, le rapprochement entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron, dès sa campagne, mais même très tôt dans son ambition personnelle, dans son parcours personnel, était en contact avec les réseaux de la Sarkozy et de toute la droite politique. Et ça, c'est très important, parce que sans complexe, pour tuer François Hollande, d'une certaine manière, politiquement, il a utilisé et il s'est appuyé sur de nombreux réseaux de la droite française, sans complexe, toutes tendances confondues, et notamment la Sarkozy, après plus de 10 ans d'antisarkozisme. Donc ça devrait poser question, par exemple, à François Bayrou, qui s'est construit contre Nicolas Sarkozy.
Et dont le ministre du budget, Gérald Darmanin, en est l'un des plus éclatants symboles. Mark Endevel, le grand manipulateur, votre livre vient de paraître chez Stock. Merci beaucoup.
Merci à vous. Europe 1.
Voilà, Emmanuel Macron, c'est fait. On va s'intéresser donc à la droite. Dans un instant, la droite, c'est coup tordu et c'est haine. La haine, c'est le nouveau livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, nos invités dans un instant.
Europe 1, 9h-10h. C'est arrivé cette semaine. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
La politique encore avec la droite des années Sarkozy, ses rancœurs et ses détestations, tout ce qui a fini par la détruire et la couler par le fond, la haine. C'est le titre du dernier livre des deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Vacherie, malveillance et coup tordu de l'élection de Nicolas Sarkozy à l'Élysée en 2007, à l'affaire Big Malion en 2014, en passant par la bataille Fillon-Copé pour la présidence de l'UMP en 2012. Vous nous installez... À la table des cannibales, je crois que c'était l'un des titres envisagés à un moment pour ce livre. C'est vraiment ça, ils se sont entre-dévorés.
C'est vraiment le cas. Alors, effectivement, ils se sont entre-dévorés jusqu'à aboutir à la situation actuelle d'une droite qui est aux abois, qui certes remonte un peu dans les sondages, mais quand même traite dans un étiquetage extrêmement bas par rapport à il y a quelques années, parce que justement les querelles d'écho l'ont emporté largement sur les supposés idéologiques.
Ce qui avait déjà existé pour la période Chirac-Balladur aussi, hein, grande rivalité à droite, Fabrice Lhomme.
Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on a retrouvé certains ingrédients de la bataille Chirac-Balladur, mais là ce qui nous a paru plus frappant dans la période donc plus récente, c'est que j'allais dire tous les bords politiques de la droite républicaine, étaient touchés. Chirac-Balladur, c'est vrai qu'à un moment, le parti principal, à l'époque le RPR, s'est déchiré par rapport à une présidentielle. Mais là, c'est la famille de la droite qui a explosé. Les rivalités, c'est pas seulement, par exemple, Sarkozy-Fillon. La haine Copé-Fillon, elle existe. Et aujourd'hui, ça se perpétue entre des Wauquiez, des Pécresse, etc. Donc c'est l'objet de ce livre de montrer que la haine, elle a tout envahi.
Avec un guide, Jérôme Lavrieux, on va y revenir, et un fil conducteur, la détestation grandissante entre le président et son Premier ministre, Nicolas Sarkozy et François Fillon, le mariage d'intérêts entre la carpe et le lapin, un extraverti communicatif et tactile et un introverti méfiant, secret et rancunier. Vous racontez que ça dérape dès le mois de septembre, quand Fillon déclare « je suis à la tête d'un État en faillite ». C'est vraiment des éléments déclencheurs de la détestation entre les deux.
Oui, pour deux raisons. En fait, ce qui s'est passé pour ce livre, c'est qu'on a rencontré, non seulement on a un fil rouge, Jérôme Lavrieux, mais on a rencontré énormément de témoins importants encore aujourd'hui, que ce soit Brice Hortefeux, Claude Guéant et d'autres. Et ces gens-là nous ont raconté par le menu l'installation de la haine entre ces deux personnes-là, Sarkozy et Fillon. Et effectivement, cette phrase-là, elle a profondément heurté le camp sarkozyste pour deux raisons. Cette phrase prononcée en Corse par François Fillon, c'est que la première chose, je suis à la tête d'un État.
Oui, non.
Alors, ça non, non. Il n'était que Premier ministre. Et deuxièmement, un État en faillite, non, ça ne se dit pas non plus. Donc Sarkozy est devenu fou furieux à partir de ce moment-là. Et là, il s'est dit, je me méfie maintenant de François Fillon.
Fillon qui est sur la sellette en 2010, Sarkozy hésite à nommer Borloo, Jean-Louis Borloo. Fillon tantôt dit qu'il en a marre, tantôt il fait campagne contre Borloo, avec quelques vacheries sur « il supporte pas l'avion ». Mais d'après son amie Roselyne Bachelot, si François Fillon renonce,
ben c'est pour des raisons purement financières. Ça fait partie des, on va dire, des révélations que nous ont faites certains témoins et qui nous ont stupéfaits. Honnêtement, quand Roselyne Bachelot nous a dit ça, j'ai eu un peu de mal à le croire. Donc on lui a demandé si c'était une petite blague. Non, non, c'était très sérieux. C'était le fait qu'il a un train de vie à assumer, des enfants, un manoir, on en a beaucoup
parlé voiture.
Depuis. Une voiture. Oui, des voitures en général.
Une toiture, je disais.
Ouais, c'est ça, d'accord. Je pensais aux voitures, parce qu'il avait aussi des voitures. Donc oui. C'est vrai qu'on a découvert qu'il avait... Il est moins bling-bling que Sarkozy. Malgré tout, il a eu un attrait pour l'argent qui est du même ordre. Et donc, il avait des gros besoins financiers. Ça voulait dire que passer de Matignon à, par exemple, à redevenir député, c'était une grosse perte salariale, tout simplement, et qu'il pouvait pas, en tout cas, qu'il ne voulait pas se le permettre.
Vous avez vu beaucoup de monde, vous l'avez dit. Quelques fantômes de la Sarkozy. Claude Guéant, qui vous dit « je suis fauché, je suis sur la paille ».
Oui, c'était...
C'est une scène assez étonnante.
C'est assez étonnant, même pour nous, parce que pendant longtemps, Claude Guéant n'a plus voulu nous parler, eu égard aux différentes révélations qu'on avait faites sur l'époque sarkozyste. Et puis là, il nous a vu tout d'un coup, il est venu avec son petit attaché-caisse dans lequel il y avait son agenda. Il n'avait que ça dans son attaché-caisse, un agenda avec des pages vides. C'est-à-dire que toute la Sarkozy lui a tourné le dos. Sarkozy, quand il parle de Guéant, il dit mon pauvre Claude. Et parce que Claude Guéant, il est devenu le symbole de cette Sarkozy qui aimait trop l'argent, qui était mêlée dans des affaires. Et aujourd'hui, du coup, dans ce livre, Claude Guéant nous raconte cette guerre Sarko-Fillon, puis il nous raconte aussi l'affaire libyenne, ce qu'il en pense, qu'il en est, etc. Donc c'était assez touchant, quelque part, hein, de voir ce grand commis de l'État devenu peu de choses.
Votre guide, Fabrice Lhomme, Gérard Davet, à la base de ce livre, c'est un homme de l'ombre qui a brutalement pris la lumière, Jérôme Lavrieux, homme à tout faire du maire de Saint-Quentin pendant 10 ans, puis bras droit de Jean-François Copé, fonction où, il faut le dire, il gagne une réputation épouvantable, manœuvre, trucage, intimidation, toutes les bases œuvres de la politique, il le reconnaît aujourd'hui, il avoue d'ailleurs certains mensonges. Est-ce que ça en fait un bon témoin de moralité ?
Nous, ce qui nous importe, c'est est-ce que la personne est bien placée pour s'exprimer ? Est-ce qu'elle est crédible, en quelque sorte, dans ce qu'elle a à dire ? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut vérifier ce qu'elle nous dit ? C'est ce qu'on a pu faire avec Jérôme Lavrieux. Et il s'est avéré que tout ce qu'il nous a dit, en fait, nous avons pu le vérifier en recoupant. À peu près tout, quasiment tout. Et donc, du coup, ça nous en fait un témoin très précieux, parce que l'homme, comme vous le disiez, a été... a une réputation d'expert escoutordu, c'est pour ça qu'on l'appelle le professeur dans le livre, c'est le type qui sait tout sur tout le monde et qui a monté des coups sur tout le monde. Et donc du coup, le confesser, obtenir ses aveux, mais également des informations très précieuses, comme ils nous ont fait par exemple sur l'affaire des sondages de l'Élysée ou d'autres affaires, c'est très très précieux pour nous.
Jérôme Lavrieux, qui est au cœur de l'affaire, qui n'est plus l'affaire Big Malion, mais celle des frais de campagne de Nicolas Sarkozy, des meetings somptueux donc en 2012, des dépenses sans compter, 45 millions d'euros, le double du plafond autorisé. Alors il y a beaucoup de détails assez croquignolés, puisque Lavrieux, il était au cœur, il était directeur adjoint de cette campagne.
Et il a tout conservé. Donc il a une mémoire d'éléphant et il a conservé des documents. Donc ça nous a permis de creuser à fond cette histoire qui, comme vous le disiez si bien, n'est pas l'affaire Big Malion, mais l'affaire des comptes de campagne. On passe de 5 meetings en 2012 à 44 au total et ça devient une affaire absolument incroyable.
2 ans plus tôt, Jérôme Lavrieux est au cœur de la bataille Fillon-Copé. C'est là qu'il se révèle, qu'il fait ses premières déclarations publiques. Et c'est parce qu'il a une taupe dans le camp Fillon, un espion qui lui dit... Le soir du vote, Fillon va proclamer sa victoire dans les minutes qui viennent, qui pousse Copé à le coiffer sur le fil. Jean-François Copé se proclame vainqueur de l'élection avant François Fillon. C'est un coup bas.
Oui, tout à fait, mais c'est surtout une séquence totalement surréaliste. Oui. On est quand même au sein du même parti et on se fait des coups qui, je veux dire, on voit ça dans les séries télévisées et quand on les voit, on n'y croit pas vraiment. Il y a des gamineries aussi et puis il y a surtout une stratégie en l'occurrence qui est à la fois je dégomme l'adversaire, en l'occurrence le clan Copé va essayer d'affaiblir Fillon de toutes les manières qui soient, et d'autre part il faut que je préempte le terrain de la communication. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, tout est communication. Par exemple, la victoire est disputée, on ne sait pas qui a gagné, et ben c'est le premier qui qui parle qui va rafler la mise. Et c'est pour ça qu'il y a une course, même dans les escaliers ou dans l'ascenseur, de Copé qui veut se précipiter le premier sur les micros pour dire j'ai gagné. Et quelque part, ça va marcher, puisqu'il s'arroge la victoire. Et Lavrieux nous dit oui, parce que quand vous êtes le premier à déclarer la victoire, celui qui proteste, c'est le vaincu, c'est le mauvais perdant.
Il y aura une suite, donc, Gérard Davet, Fabrice Lhomme.
Oui, parce que là, ce sont les années Sarko que nous avons, dans lesquelles nous révélons nombre de choses. Et après, nous allons nous attaquer aux années Fillon, parce que ce qui est vraiment passionnant dans cette histoire, c'est que d'abord, c'est un thriller et un western incroyable, dans lesquels, en fait, tous les coups sont permis. Et parmi les coups permis, il y a l'utilisation des affaires judiciaires. Or, on établit dans ce tome-là qu'effectivement, François Fillon a utilisé la justice pour nuire à Sarkozy. On va probablement, dans le second tome qui paraîtra à l'automne, toujours chez Fayard, raconter comment l'affaire Fillon a été, elle, instrumentalisée par le camp sarkozyste.
Quel teasing, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, la haine, les années Sarko, ça paraît chez Fayard. Merci d'être venu nous
Merci
en parler.
Merci beaucoup. Europe 1.
Dans un instant, le Venezuela, vu par une Vénézuélienne exaspérée par beaucoup de prétendus experts du Venezuela, d'experts français.
Chaque samedi de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen. Vous écoutez cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Et on parle du Venezuela. Bonjour Paola Vasquez-Lezama.
Bonjour.
Vous êtes née à Caracas, ville connue dans l'imaginaire français pour être celle du Sauvage, le film de Rapneau avec Catherine Deneuve et Yves Montand. Vous le rappelez dans votre livre. Vous arrivez en France en 97. Vous êtes aussi française depuis 2003, sociologue, anthropologue, chercheuse au CNRS. Et vous publiez chez Buchet-Chastel un livre sur votre premier pays, le Venezuela. Un livre écrit à la première personne parce que vous parlez de la vie quotidienne de votre peuple, de vos parents, du manque de nourriture, de la mort de votre père après une course folle pour lui trouver des médicaments. Vous parlez en femme révoltée par la situation de votre pays, mais révoltée aussi par la façon dont souvent on parle de la crise vénézuélienne en France. Pourquoi ? Parce que souvent, sans se soucier du sort des Vénézuéliens.
Parce que surtout, on se demande les raisons pour lesquelles on gomme certaines réalités et faits historiques de ces pays. C'est-à-dire qu'il faudrait discerner entre les questions académiques et des spécialistes et aussi les positionnements politiques. Et depuis depuis l'avènement de Hugo Chavez au pouvoir en 1998, on voit donc cette fascination par ces leaders qui fait une sorte d'exonération par la sympathie politique qu'il inspire des choses de ses responsabilités dans une crise qui est longue et qui est assez brutale pour les peuples vénézuéliens, au point que on doit comme porter toujours plus de preuves que les autres de cette réalité terrible que pour d'autres sociétés ou pour d'autres situations sociales, la parole du chercheur suffit. Là, ma parole ne suffit pas une fois, mais il faut donner encore plus de preuves de la réalité de la crise parce qu'elle est mise en cause, parce qu'elle n'est pas crédible, parce que ce n'est pas possible qu'on soit arrivé là avec un projet qui était sympathique.
Oui, vous racontez dans votre livre comment vous devez vous battre parfois même auprès de collègues, de chercheurs, pour imposer votre version de ce qu'est la réalité au Venezuela. En fait, ce que vous expliquez, c'est que le débat public en France, là-dessus, il est marqué, il est troublé par l'idéologie et par une forme de schéma idéologique qu'on plaque sur la situation politique.
Parce que parfois, c'est même pas l'imposer, c'est le dire. La question de pouvoir dire les choses, c'est parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas l'occasion et parce que rien que la manière de formuler les choses sème les doutes. Et il y a ces schémas très de guerre froide qui s'est imposé, de voir un gouvernement soutenu par une masse populaire qui est arrivé avec des idéaux de gauche et qui s'est fait tout de suite faire tomber par les États-Unis, les méchants empires, etc. Et je dis pas que je nie pas la question des États-Unis, etc., mais que ça dépassait ces schémas de guerre froide imposés dans l'idéologie de gauche ou marxiste, etc., ça a été extrêmement difficile
pour
le Venezuela parce que ça a été comme un rappel historique de refaire la réalité vénézuélienne et la écrire avant qu'elle arrive elle-même.
Oui, c'est pas aussi simple parce que vous rappelez que que Chavez lui-même a produit un coup d'État, que la dimension militariste, elle était très forte au début, et la dimension révolutionnaire beaucoup moins au début du régime chaviste. Le Venezuela a été un pays prospère, il devrait être prospère. Aujourd'hui, c'est un pays hors service. C'est le titre de votre livre. Ça veut dire quoi Paola Vasquez, pays hors service.
Ça veut dire que tous les systèmes, l'infrastructure publique, là où on a besoin des fonds publics, n'ont pas été investis, mais dépensés et mal dépensés, en détriment donc du bien-être de la population. C'est-à-dire, Chavez a fait la promotion d'un nouveau modèle social alternatif, des productions avec des étatisations, des expropriations, etc., sans mettre en place une véritable alternative, et surtout en faisant sauter tous les moyens de contrôler l'usage des fonds publics. Donc c'est un pays en audit, c'est un pays sans appel d'offres.
Sans compte public, dites-vous, il n'y a plus de comptabilité.
Il n'y a pas de comptabilité et elle n'est pas accessible. Et la banque centrale vénézuélienne est d'ailleurs fermée jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire qu'on se demande comment ça tient. Ça tient en ce moment par l'envoi d'argent des Vénézuéliens qui sont à l'étranger pour leurs parents, parce que le Venezuela a perdu 10% de sa population. Ça fonctionne aussi parce que le système de la révolution bolivarienne a créé une classe sociale qui n'est pas une classe sociale parce qu'elle produit pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle la boli-bourgeoisie, que c'est une classe qui se bénéficie des dollars et des devises, et qu'avec des transactions, avec les taux d'échange et la manipulation du système de contrôle de devises, c'est enrichi d'une manière immense et assez inimaginable. D'ailleurs, je soutiens que ça va bien au-delà d'une question de corruption. C'est tout un système de détournement des fonds publics qui a alimenté les paradis fiscaux en Europe, etc. C'est l'un des premiers pays cités dans les Panama Papers,
il y a donc une redistribution de la manne pétrolière, mais sans construction d'un appareil. Aujourd'hui, c'est un pays qui ne produit plus rien. L'autre idée reçue que vous battez en brèche, c'est l'idée que c'est la baisse des cours du pétrole qui a ruiné le pays. Vous dites non, c'est pas la baisse des cours, c'est la baisse de la production pétrolière, parce que oui, par manque d'investissement dans les infrastructures, c'est ça. Hein.
C'est là où les spécialistes autoproclamés du Venezuela prolifèrent en explication, parce que du coup, la question pétrolière, c'est quelque chose de très complexe et spécifique. Le Venezuela a nationalisé son industrie pétrolière à la fin des années 70. C'est un pays très nationaliste en termes de questions pétrolières. Et donc là, on a tout de suite l'impression que tout dépend du cours du pétrole. Et non, il y avait une économie non pétrolière qui a fonctionné dans ces pays. Donc, du coup, l'explication parfaite pour exonérer le chavisme et la révolution bolivarienne de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la descente du prix du baril, quand on oublie que le Venezuela a vécu avec un baril de 9 dollars en 94, par exemple, 9 dollars les prix du baril. Et donc, on s'est dit, mais là, il n'y avait pas la situation qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Donc, pourquoi chercher des explications très simples à une situation si complexe? C'est pour exonérer beaucoup de fois la responsabilité des mauvaises politiques économiques, sociales et politiques qui ont été mises en place par le chavisme.
Paola Vasquez Lezama, je ne vous demande pas de prédiction dans le bras de fer en cours entre Guaido et Maduro. On se reporte aux journaux d'Europe 1 et à notre envoyé spécial qui est en train d'arriver sur place justement à Caracas. On va suivre la crise vénézuélienne, mais pour comprendre le pays, il faut vous lire. Pays hors service, Venezuela de l'utopie au chaos, chez Buchet-Chastel. Merci beaucoup Paola Vasquez Lezama.
Retrouvez C'est arrivé cette semaine, tous les samedis de 9h à 10h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.